Les délibérations numéro 11 concernant le bilan de concertation du projet de renouvellement urbain et GLD. Je passe la parole à Jean-Pierre Serrailly.
Bien. Il s'agit d'une délibération concernant le bilan de concertation du projet de renouvellement urbain GLD. Je rappelle que ce projet, donc soumis à la concertation préalable, concerne le site GLD, qu'il s'agit d'un projet d'aménagement privé porté par Gilles Trignat Résidence, un programme d'habitation d'environ 400 logements comportant 30% de logements sociaux. Je rappelle qu'il a été décidé de lancer une concertation, puisque nous étions en carence, et d'engager une procédure de modification du PLU. Je rappelle que la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2016 a défini les modalités de concertation. La concertation s'est déroulée du 15 novembre au 15 décembre 2016. Il y a eu une réunion de concertation, la mise à disposition d'un site internet, au centre technique d'un dossier avec un registre, et le résultat, en fait, il y a eu des remarques et observations de 16 personnes qui est remontée, plus les 20 personnes qui étaient une vingtaine de personnes donc à la réunion publique. Voilà, donc les remarques et observations peuvent être répartis en trois rubriques. Donc les observations propres au projet et ses abords immédiats, donc avec les remarques sur les hauteurs, des remarques sur les logements sociaux, les remarques portant sur le stationnement, sur l'impact environnemental, sur les espaces verts, sur les éléments d'architecture, des remarques sur les risques de chute de blocs liés à la falaise et des remarques relatives à l'ensoleillement. Alors, en ce qui concerne ce projet, eh bien, on est dans un projet concernant les hauteurs, donc la construction d'immeubles de 4, 5 et 6 étages, et les remarques portent là-dessus. Le plan actuel, le plan local d'urbanisme, autorise en fait à l'heure actuelle donc un projet de 600 logements sur 51 000 m2. Or, l'assiette maintenant est plus importante et ce projet fait 400 logements sur 56 000 m2. Beaucoup d'espaces verts, un parc central, le traitement des eaux pluviales, des cheminements et des formes d'habitat variées qui s'étalent donc du R+2, R+3 jusqu'à R+5 et 6. Et ces bâtiments, effectivement, les plus bas sont du côté de la rue de la Falaise et du côté de la résidence du Pré du Bourg. Et ensuite, donc, les plus hauts seront côté Falaise. On nous a fait des remarques sur le masque visuel. Tout ça, ça a été étudié. Et par rapport à la résidence près du bourg sont d'une centaine de mètres. Et c'est un projet qui est aéré et qui va progressivement monter du côté de la falaise. Sur les remarques concernant les logements sociaux, là, il y a une personne qui nous dit ben, on ne fait pas suffisamment de logements sociaux. Et il y a une remarque qui dit ben, on en fait trop. Donc, je rappelle que ce projet donc, contribue à atteindre l'objectif de la loi SRU, qui, je vous le rappelle, donc, c'est 25% de logements sociaux donc, à horizon 2025. Nous sommes actuellement à 10,98. Donc, la métropole, sur ce projet-là, qui a été présenté, souhaitait 40%. Ces 40%, nous avons défendu un chiffre inférieur. Tout simplement parce que il y avait les coûts de démolition, il y avait également un problème de désamiantage, de dépollution de ce site, et donc il y a des coûts très très importants, et nous avons décidé, la métro donc nous a suivi sur ce projet-là, donc et a descendu à 30%. Ensuite, il y a des remarques sur le stationnement. Le stationnement, donc effectivement, le stationnement, c'est un problème. Donc on nous fait la remarque que, en fait, 700 places pour 400 logements, eh bien, semble insuffisant. Or, tous ces stationnements sont normés. Donc je rappelle la norme, c'est 2 places de stationnement pour les logements en accession et 1 place pour les logements sociaux, hein, ce qui fait donc 680 places. Donc nous sommes au-delà de ce chiffre. La question sur l'usage détourné des box, mais ça, le maître d'ouvrage donc, en fera son affaire. Aux alentours, je rappelle qu'il y a encore des places, 87 places de stationnement. Voilà. Ensuite, des remarques sur l'impact environnemental, avec une observation sur le respect de la norme RT 2012. Je rappelle que le projet donc, est tenu au respect de cette réglementation. Des remarques sur les espaces verts. L'entretien effectivement des espaces verts sera à la charge des copropriétés. La copropriété. Des remarques également sur l'architecture. On est obligé, bien entendu, de respecter le PLU. Les couvertures seront réalisées donc en tuiles, puisque c'était en fait une remarque. Remarque sur les risques de chute de blocs. Alors là, je rappelle une nouvelle fois qu'il y a eu en fait deux études, une avec le RTM et une avec la société Sage. Et en fait, il y a eu une limite qui a été déterminée avec ces deux organismes. Et le maître d'ouvrage donc, devra respecter cette nouvelle limite. Et il y a eu donc un porté à connaissance de ces aléas. Remarque relative sur l'ensoleillement, eh bien, ce projet, on peut dire qu'il a été pensé effectivement, puisqu'il y a beaucoup de transparence donc sur ces immeubles. Ensuite, vous avez la catégorie remarques liées au cadre de vie, donc des remarques sur les nuisances induites par l'augmentation des habitants. Bien, ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'actuellement, eh bien, il y a de l'insécurité ou des sentiments d'insécurité sur cette zone. Eh bien, à savoir que cette zone, eh bien, avec les habitants, c'est une zone qui sera occupée et donc ce sentiment n'existera plus. En ce qui concerne la circulation, je rappelle que actuellement il y a 150 camions, enfin il y avait 150 camions et cars qui circulaient sur l'avenue de la Falaise, que c'était jour et nuit et que en particulier l'été. Ces trafics étaient incessants avec le chargement et déchargement toute la nuit avec les fenêtres ouvertes. C'est vrai que ça portait beaucoup de nuisances. Ensuite, des remarques sur la sécurité, je viens d'en parler donc, avec des regroupements de jeunes qui sont remontés. C'est l'occupation de cette zone. Des remarques relatives aux travaux. Mais là, les travaux, effectivement, ce n'est pas pendant 7 ans comme c'était évoqué, mais pendant 5 ans, et que le maître d'ouvrage donc devra respecter les réglementations en vigueur en la matière. Des remarques à l'échelle du secteur, donc des remarques sur la circulation et voirie. Je rappelle que l'avenue de la Falaise est conçue en fait pour avoir des véhicules de gros calibre, hein, des cars, des camions, qu'il y a également des voies piétonnes, des cyclables, et que l'apport de ces véhicules, il n'y en aura pas sur ces voies. Par contre, effectivement, sur la RD 1532, c'est toujours pareil. Ce problème sera sans doute évacué lorsque il y aura cette voie de contournement des îles. Ensuite, je rappelle également qu'il y a des nouveaux modes de déplacement, notamment le vélo, il y a d'autres moyens de transport, hein, donc au niveau des transports en commun, le tram, etc. Et qu'il est aussi envisagé le câble, donc à horizon 2022. Le réseau de voirie, Si l'on compte, effectivement, la moyenne a baissé, c'est 1,4 voitures, véhicules par ménage. Et en fait, on est loin de ce qui avait été remarqué. Donc avec 800 véhicules nouveaux, donc il s'agit, on descend donc ce chiffre-là à 560 environ. Ensuite, les remarques sur la capacité des écoles scolaires. J'y arrive. Donc, une étude scolaire spécifique avait été envisagée, donc elle sera diligentée dans les meilleurs délais. En ce qui concerne le collège Fleming, eh bien, la capacité à l'heure actuelle est suffisante. Et sur Fontaine, il y a également des capacités et la carte scolaire donc, sera également revue. Et les remarques sur les commerces. Les commerces, en fait, il y a quatre pôles commerciaux avec deux marchés. Et donc tout ça, donc ce sont les éléments de réponse par rapport aux remarques qui sont faites. Voilà. Donc j'en arrive directement à ce bilan de concertation sera joint au dossier. Et je propose au conseil municipal d'arrêter le bilan de la concertation tel que détaillé dans la présente délibération.
Merci Jean-Pierre pour ce détail. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Madame Parvis, vous avez la parole.
Nous souhaitons faire les observations suivantes concernant le projet des balcons du Vercors. Tout d'abord, sur la hauteur des bâtiments. Il est indiqué dans la note de synthèse que les bâtiments les plus bas seront positionnés le long de l'avenue de la Falaise. Ceci est faux. En effet, les logements R+2 sont situés au centre du projet. Ce sont les bâtiments R+3 plus attique et R+4 plus attique qui sont le long de la falaise, ce qui occasionnera des nuisances visuelles pour les habitants de ces tours. D'autant plus que l'immeuble R+4 plus attique a un toit 4 pans, alors que l'autre immeuble a un toit plat. D'autre part, nulle part dans le projet est évoquée avec précision la hauteur des bâtiments, ce qui est quand même assez surprenant. Le PLU indique 12 mètres de haut pour la zone UBC. Pour la première fois, il est évoqué la modification du PLU au sujet des hauteurs des bâtiments, qui, si nos calculs sont exacts, devra avoisiner une vingtaine de mètres. Les constructions réalisées les 20 dernières années sur notre commune n'ont pas dépassé 4 étages. Souhaitons revenir à l'habitat des années 70 en réalisant des immeubles de 6 étages. Est-ce le manque d'argent qui oblige notre commune à accepter de tels programmes immobiliers? Ça, c'était la remarque donc, sur la hauteur des bâtiments, maintenant sur la proximité de la falaise. Aucun élément de réponse n'est apporté à la question de savoir si l'espace vert situé au pied de la falaise sera ou non accessible aux personnes. Il est indiqué dans la note de synthèse numéro 11, je cite, « Le maître d'ouvrage devra également s'assurer de la conservation perpétuelle et du bon entretien de l'ouvrage du Merlon. » Si l'on comprend bien, le Merlon est situé sur le site du projet des balcons du Vercors. Un Merlon est un ouvrage consistant en une levée de terre visant à arrêter ou à dévier les pierres et blocs rocheux provenant des falaises et versants. Va-t-il y avoir des travaux sur l'espace vert situé au pied de la falaise? Qu'en est-il de l'accès des personnes à cet espace vert? Bizarrement, ce point n'a jamais été évoqué, que ce soit lors de la réunion d'information du 18 novembre 2016 ou lors du conseil municipal du 25 octobre dernier. Donc j'aimerais bien que sur ce point très précis, M. Sirali me réponde, à savoir si l'espace vert situé au pied de la falaise, s'il sera accessible aux personnes ou si ce sera un espace qui sera clos parce que ce sera le Merlon. D'autre part, sur les places de stationnement. Dans la note de synthèse, il est indiqué la réalisation de 680 places de parking. Il est mentionné par ailleurs que le constructeur accepte de réaliser 700 places de stationnement. Avez-vous un accord écrit de sa part? Les visiteurs de ces 400 logements stationneront où? Les places de stationnement des rues avoisinantes étant déjà saturées par les véhicules des propriétaires ou des locataires des immeubles existants. Autre point, sur les nuisances sonores. Dans la note de synthèse, il est évoqué les nuisances sonores liées au passage de 150 camions de l'entreprise GLD par journée. Les 700 à 800 voitures supplémentaires provoqueront bien plus de nuisances sonores. Et il y a également les transports Zanon et les carrefours qui sont à l'origine de nuisances. Donc si on enlève les 150 camions de l'entreprise GLD, il y aura quand même les transports Zanon, les carrefours, plus 700 et 800 voitures. Donc il y a un vrai problème de nuisance dans ce quartier. Autre point, c'est sur la capacité d'accueil des enfants sassenageois au niveau des écoles, du collège, des crèches, halte-garderies, centre aéré. Sauf erreur de ma part, M. Serraillé, il ne me semble pas que vous ayez évoqué ce point. Alors, toutes mes excuses. On constate un manque flagrant d'anticipation de la mairie sur ce point. Ce n'est pas avec la dette d'Exia que notre commune aura les moyens. Oui, vous riez maintenant, mais je pense que dans 2 ou 3 ans, vous rirez beaucoup moins quand vous aurez à payer la dette, le capital, les intérêts capitalisés, plus tous les frais et dépens du procès.
Madame Parvi, je suis obligé de vous arrêter, vous êtes juge, non ? Vous savez définir à l'avance le jugement.
Monsieur le maire, vous avez bien été juge en disant que le...
Vous avez une boule de cristal, Madame Parvi ?
Oui, mais vous aussi, vous en avez.
Alors, revenez à la délibération. S'il vous plaît.
Vous avez bien dit que le procureur ne donnait pas suite. Vous avez bien une boule de cristal, mais elle s'est trompée.
Oui, madame. Non, on ne se trompe pas, madame. Si vous êtes réintervenue une deuxième fois, sinon il n'aurait pas donné suite.
Bien sûr, je suis réintervenue, bien sûr. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la politique actuelle. Il faut anticiper. Il faut avoir une vision à moyen terme. Quand tous ces enfants vont arriver, on ne va pas dire, eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Le centre aéré est trop petit. L'école des pieds est trop petite. Le collège est trop petit. Voilà. Donc, je vous demande d'anticiper, de prendre des mesures. Quand on dit l'opposition n'anticipe pas, ne propose rien, si je propose. Anticipons cette arrivée massive. Vous avez le domaine de Beaurevoir, vous avez les balcons du Vercors qui vont arriver. Ça va être. GLD, c'est le balcon du Vercors. C'est mon projet. C'est en face. Alors, c'est.
En face.
Voilà. Oui, c'est GLD.
C'est nous, les balcons du Vercors. Et on s'oppose à tout ça.
Voilà.
À ces grands immeubles qui vont nous masquer la vue, que vous vouliez ou non.
S'il vous plaît, madame, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Je vous demande le silence, sinon je fais évacuer, madame. Je vous fais évacuer, madame.
Voilà, donc.
Connaître les règles et respecter les règles d'un conseil municipal quand on vient assister à une séance publique, il faut respecter ces règles, madame.
Donc nous vous demandons d'anticiper tous ces points et ce ne sera pas dans 3 ou 4 ans qu'on dira « bah oui, on n'avait pas su, vous ne serez peut-être plus dans la municipalité, mais anticipons pour l'avenir des Sassenageois. »
Vous avez déjà dit ça au dernier mandat.
Bon, on voit les réalisations qui ont été faites depuis l'année 2000. Hein.
Exactement. Mohamed Benraoui, s'il vous plaît, un peu de calme.
Merci, monsieur le maire. Je ne vais pas intervenir pour répondre sur ces questions techniques. Ce n'est pas de mon ressort, c'est à Jean-Pierre, évidemment, et à d'autres personnes qui sont compétentes. Moi, je voudrais juste apporter une précision très importante. Et là, j'ai ce soir la confirmation devant moi. Il y a une étude scientifique qui a été réalisée pour essayer de comprendre les interventions des uns et des autres dans une réunion. Et on avait, en fait, si vous me permettez, je vais vous donner ça parce que c'est très intéressant. Ça va vous donner une idée. Sur des propositions de projets réussis, on a constaté qu'il y a toujours des interventions qui sont un tout petit peu surdimensionnées. Et l'explication en fait, qui a été apportée par les chercheurs dans ce sens-là, c'est que cela pourrait s'expliquer par 3 choses. L'ignorance, l'infériorité ou la jalousie. Donc je laisse l'opposition choisir l'un de ces 3 ou les 3.
Merci Mohamed. Jean Boétil.
Alors moi, la grande question que je me pose aujourd'hui, c'est de quelle planète débarque Madame Parvi ? Parce que alors aujourd'hui, ça fait depuis 3 mandats qu'on est donc aux manettes. Il y a combien d'enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'école sur Sassenage? Donc je pense que dans tous les projets qui sont menés par la commune, bien évidemment que pour être pris en compte, que ce soit au niveau des voiries, que ce soit au niveau des écoles, on n'est pas là juste pour construire et pour mettre des gens dans des appartements, mais on prend aussi en considération leur vie future sur la commune. Voilà, merci.
D'autres interventions? Jean-Pierre.
Oui, Madame Farville, je suis obligé d'intervenir parce que, en fait, vous parlez de Dexia. Qu'est-ce que Dexia a à voir là-dedans? On parle sur un projet GLD qui a été travaillé. Vous avez 10 pages et demie d'explications et de réponses là-dedans. Je crois que vous n'avez pas lu ce texte, ces 10 pages et demie, vous ne les avez pas lues. Vous avez simplement préparé votre intervention à votre sauce. Et c'est tout ce que vous avez fait.
D'autres interventions? Il n'y a pas d'autres réponses? Pas d'autres interventions? S'il vous plaît, attendez, Madame Parvi, soyez patiente. Je demande s'il y a d'autres interventions. Pas d'autres interventions? Moi, je vais intervenir et essayer de répondre, quoique, effectivement, je me demande si ça mérite réponse. Moi, je suis d'accord avec une intervention qui a eu lieu. Je crois que vous êtes sur une autre planète, Madame Parvi. Quoique j'aurais du mal à comprendre, enfin bon, je vais m'arrêter parce que quand vous parlez de vision, enfin, manque de vision, effectivement, vous avez la raison, est-ce que aujourd'hui, depuis 15 ans en tout cas, on n'a pas accueilli d'enfants dans les écoles, est-ce qu'on n'a pas répondu à nos obligations, est-ce que aujourd'hui, je pense que les Sassenageois qui nous ont réélus deux fois en tout cas, sont très satisfaits de la gestion de la commune et des services qui sont offerts par la commune. Quand vous parlez de vision, moi je veux bien, mais ce terrain de GLD, il est depuis 2005, c'est pas d'aujourd'hui, sur le PLU de 2005. On est en 2005, c'est combien ? Ça fait 12 ans. Il est inscrit en modification de zone d'activité en zone constructive. Et aujourd'hui, vous vous dites, on n'a pas de vision, on n'a pas vu, on n'a rien fait, vous ne nous avez pas averti. Depuis 2005, vous seriez pu venir voir qu'est-ce que vous l'avez modifié. Il a été voté d'ailleurs par la population, et que cette zone est urbanisée. Pourquoi? Parce que c'est une zone d'activité qui n'a aujourd'hui, et là c'est de la vision. Aujourd'hui, cette zone d'activité qui à l'époque avait un vrai intérêt le long de la nationale, qui aujourd'hui est dépassée en départemental et même plus rien, aujourd'hui c'est une voie communale. L'avenue de Romont n'a plus d'intérêt, cette zone, le long de la falaise. Donc dès 2005, on avait prévu dans le PLU de la remplacer par une zone urbanisée. Après, moi je veux bien la hauteur des immeubles. On a déjà eu l'exemple. Vous savez, il y a deux solutions quand on urbanise. Alors, vous avez vu, c'était, on aurait pu faire 600 logements, ce qui a posé la métro. Et notamment la vice-présidente au logement, Madame Parvi, si vous n'écoutez pas les réponses, c'est pas la peine, je les donne. Mais là aussi, c'est un manque de respect, Madame Parvi. Quand je vous donne des réponses, de ne pas les écouter, c'est un irrespect. Mais bon, c'est pas grave. Je les donne pour mes collègues, en fait, qui eux écoutent. En fait, c'était 600 logements. La surface de plancher permettait sur la première zone, celle qui est au PLU de 600 logements, et la métro imposait aussi 40% de logements sociaux, et dans les 40%, 40% de PLI. Donc très social. Bon, ok, sauf que derrière, Jean-Pierre Serrier, il argumente en disant oui, il y a des coûts. Et effectivement, il a regardé le bilan avec le promoteur et qu'on n'arrive pas. Vous savez, un terrain, il vaut que ce qu'on peut y faire dessus. C'est sûr qu'il vaut plus cher si on fait 600 logements que 400 logements. Il a fallu négocier fortement avec le promoteur et le vendeur, qui le vendeur cherche à vendre le plus cher possible, et le promoteur a rentabilisé le plus possible. Il a fallu négocier avec eux pour redescendre à 400, vous rendez compte, 200 logements de moins sur les surfaces. Et de plus, on a augmenté la surface. Par rapport à ce qu'on aurait pu faire sur les 600 logements, on a encore augmenté. On a trouvé un petit terrain à côté qui appartenait aussi à GLD et qui vend, qui est en dehors de la zone, mais qui vend. Et malgré tout, on a baissé le nombre de logements. Et il a fallu négocier aussi pour baisser le nombre de logements sociaux. C'est pas rien, c'est important ça. parce qu'on voulait nous l'imposer. Et quand, encore une fois, Jean-Pierre Serrier évoque le bilan, moi j'y ai l'argument, en tout cas, que j'ai défendu avec force, c'est de dire qu'on a un quartier qui, pourtant, le quartier de la Falaise, c'est un quartier des années 60, avec des tours, avec des immeubles. C'est effectivement là que les immeubles sont les plus hauts. Et c'est pas moi qui les ai fait, ceux-là, c'est avant nous. Hein. Alors, moi, je veux bien, il y a des immeubles de 15 étages, d'autres de 8, d'autres de 12 étages sur la zone. Mais c'est un quartier qui est où il n'y a pas beaucoup de logements sociaux. Sur l'ensemble du quartier, il y a 8% de logements sociaux. À l'Ovalie, il y en a 30%. Ouais, c'est vite vu. Hein. Sauf que c'est la forme urbaine, et c'est ça que j'ai défendu, c'est la forme urbaine qui date des années 60 et qui pose des problèmes, cette forme urbanisme. Pas les logements sociaux, il y en a très peu, il n'y a que la tour Vouillant, le logement social, sur l'ensemble du quartier, et quelques diffus dans les immeubles qui sont tous en accession. Mais la forme urbaine, ben, on remet en cause et crée des problèmes. Quand il y a un problème, c'est là-bas qu'il se passe. Donc il nous faut aménager ce quartier pour éviter toutes ces zones de no man's land, ces zones d'activité qui sont vides le soir, sauf qu'elles sont nuisantes par le bruit et par celles, justement, GLD qui est en activité, mais qui sont libres le week-end et qui sont des zones désertiques le week-end. Il nous faut les réurbaniser, les sécuriser. Alors après, sur le choix de la hauteur, bon oui, il y a deux solutions. C'est soit on prend toute la surface, c'est ce qu'on faisait avant, on prenait toute la surface du terrain, on fait que des maisons, des immeubles, et R+1 et R+2 sur toute la surface, puis il n'y a plus d'espace vert. Un choix, on dit à un moment, il vaut peut-être mieux monter et puis laisser plus d'espace vert. D'ailleurs, on a eu un exemple qui est clair comme ça, un exemple qui est flagrant assassin, c'est pour ça que... Et là, il y a une erreur, mais une erreur de la population, et nous aussi, on a suivi derrière, c'est sur le domaine, comment il s'appelle l'autobite, Jérôme, le domaine du Vieux-Seine. Il y a des arbres qui font 40 mètres de hauteur. Et à l'époque, le promoteur nous disait, il y avait que la clairière, vous vous rappelez, où on pouvait construire, et le promoteur nous disait, eh ben, il vaut mieux construire en hauteur pour laisser de la place au sol entre les arbres et puis les logements. Et nous, on n'a pas voulu, on a dit, vous rendez compte, à ça sage, monter à 8 étages, il vaut mieux rester à 5-6 étages, on monte moins haut, et ben, par contre, il faut étaler, si on ne monte pas, il faut étaler. Et aujourd'hui, eh bien, ceux qui habitent nous disent ah ben, les arbres sont trop près, il faudrait qu'ils soient un peu plus loin, on va couper des arbres. Sauf qu'on ne peut pas les couper parce que c'est une zone boisée classée. Donc voilà, ça pose un problème. À un moment, on a deux solutions, c'est soit on monte et on laisse de l'espace, c'est ce qu'on a choisi. Il y a des zones où on peut monter. Il y a la falaise, ben, moi je me souviens quelle nuisance ça va apporter quand on voit les distances. Il y a 85 mètres entre l'immeuble qui est en face, l'immeuble qui est au bord de la falaise, 85 mètres, sur l'autre, le plus proche, c'est 55 mètres. Quand la loi dit c'est H/2, on va dire celui-là, il va être à 17 mètres. 17 mètres, c'est on peut mettre un immeuble à 8,50 mètres. La loi dit c'est 8,50 mètres. On est à 55 mètres. Quelle nuisance ça va apporter? Mais allez voir Vigny-Musset, c'est 15 mètres. Et il respecte la loi, il respecte juste la loi, Vigny-Musset. On n'a qu'à prendre, tout le monde trouve que c'est bien. Non, mais tout le monde trouve que c'est bien, la dentelière. La dentelière, il y a 25 mètres entre les immeubles, et tout le monde trouve que c'est bien. Là, il y a 55 mètres. 55 mètres, et c'est nuisant, moi je veux bien, mais on est riche, quoi. À un moment, on aime bien le... Moi je veux bien qu'on construise rien. Mais encore une fois, je le dis, hein, il y a, dans des affaires comme ça, il y a un vendeur et puis un acquéreur. Les Sassenageois qui ne veulent pas qu'il y ait de construction, moi je comprends, chacun fait son choix. Ceux qui ne veulent pas qu'ils soient montés une association, et puis regroupez-vous, vous retrouvez des fonds et vous achetez le terrain, et puis vous laissez vivre. Vous irez l'entretenir derrière, vous laissez vivre. C'est une solution. Quand on veut qu'il n'y ait rien, on achète tout le terrain, moi je dis toujours, il y aura. Après, il y a des règles. Moi je veux bien qu'on veuille tout, on ne veut rien à côté de chez soi, on est dans une ville, dans une métropole. La métropole incite, aujourd'hui, la métropole, et je le dis plusieurs fois, elle ne nous élève pas, elle nivelle pas vers le haut, elle nivelle vers le bas. C'est-à-dire tout le monde ira dans des immeubles, tout le monde, on nous pousse à densifier. La métro pousse, les lois poussent, et nous derrière, pour qu'on se batte, justement, pour aller contraire. Sauf que certaines gens, d'ailleurs souvent vos militants, vous, qui sont contradictoires, disent « Ah ben ouais, il faut des logements sociaux, mais il ne faut pas en construire ».
Il ne faut pas en construire et puis il ne faut pas les mettre en hauteur, il faut les mettre où, moi je veux bien, mais je n'ai pas de terrain et puis pas à côté de chez moi, il faut les mettre un peu plus loin. Moi je veux bien tout, sauf qu'effectivement quand on entend ça, on est sur une autre planète. Alors après le Merlon, alors, on a fait faire deux études sur le Merlon, effectivement il appartient toujours, c'est la loi ça, vous regardez, puisque vous êtes curieux, vous regardez les lois, même si vous ne comprenez pas tout, à un moment la loi c'est le propriétaire qui est responsable derrière de la sécurité de son terrain. Donc le propriétaire, ben, il a le Merlon, il va falloir qu'il l'entretienne, comme tous ceux, les propriétaires actuels, pour qu'ils l'entretiennent. Après, derrière, la collectivité a la possibilité d'intervenir avec l'argent du contribuable. Je veux dire, on peut tout aussi. On peut tout faire. Après, est-ce que le terrain sera accessible? Ben oui, il est accessible, il n'est pas interdit. Hein. Il est dans une zone rouge inconstructible, mais il n'est pas interdit, il n'est pas dangereux. L'étude qui a été faite, il n'y a pas de danger imminent qui interdise et qui dise qu'on ne pourra pas se promener sous la falaise. Il n'y a rien aujourd'hui. D'ailleurs, quand on demande à la DDT, elle dit qu'il n'y a rien non plus. Les services de sécurité disent qu'il n'y a rien. Donc on ne va pas l'interdire. Après, ça a le choix de la copropriété, hein, de dire si elle veut fermer son terrain, c'est libre. Les propriétaires, copropriétaires, si elle veut fermer, clôturer et dire moi je veux personne aille sur mon terrain, sur le Merlon, sur la falaise, elle devra quand même avoir l'obligation de laisser un accès pour l'entretien, pour les engins d'entretien du Merlon. Voilà, c'est la seule obligation. Après, le reste, voilà, tout a été fait. Après, bah, les toits-terrasses, bah, oui, c'est pareil. Il y a des toits-terrasses, des toits en tuiles, nous aussi, on aime bien tous les toits en tuiles, moi le premier. Et puis, je pense que tous les élus du groupe majoritaire préfèrent les toits en tuiles et les toits-terrasses. Sauf qu'il y a une loi, Madame Parly, là aussi, qui dit qu'on doit conserver les eaux pluviales, on doit les tamponner et les garder le plus longtemps possible. Et qu'un des moyens, justement, si on veut garder de la surface au sol qui soit agréable, hein, si on veut faire des espaces verts, etc., et bien, un des moyens, c'est aussi éviter de faire des trous comme on a fait à la dentelière, et bien, c'est de mettre des toits terrasses qui absorbent une partie de ces eaux imperméables. Là, c'est tout simple. Je vous le disais, et vous ne voulez pas me croire, mais de plus en plus, toutes les lois et les textes nous contraignent et nous obligent à aller sur des choses. Même si on n'est pas d'accord, ben, faut y aller. Et on tient compte des règles. On est très légaliste, même si vous n'êtes pas le grand non plus. Légitimiste et très légaliste à sa stage. Donc on respecte les règles au maximum, même si, pas au maximum, on les respecte toujours, même si des fois c'est très très complexe. Et ça retarde encore une fois les projets. Je vous rappelle, ça fait 5 ans que je suis sur ce projet, qu'il a fallu d'abord démontrer que la falaise n'était pas dangereuse. Voilà, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien, voilà, on en parlera à la métro, vous n'êtes pas pour les logements sociaux, assassinage, mais pas sociaux. Moi je m'attendais, vous voyez, à ce que vous poussiez ce projet en disant on est tous ensemble derrière, vous allez faire des logements sociaux, on vous dit d'en faire, il faut les faire, ben voilà, je m'attendais à ça. Bon, c'est peut-être pas assez, mais si c'est le cas, il faut le dire, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous tenez la position de la métro de dire qu'il fallait 40% de logements sociaux, dites-le à la métro, dites-le au Sassenageois, dites-le à tout le monde. S'il fallait aussi 600 logements, vous votez, vous abstenez parce que vous étiez pour 600 logements et 40% de logements sociaux. Il faut le dire clairement, haut et fort, mais vous le dites jamais.